Bon, bah voilà, c'est parti. Vous êtes prêts? Ça
Yeah.
enregistre? Ça enregistre.
C'est fou.
T'imagines? On fait une émission, puis ça enregistre pas au final.
Je me rappelle une certaine émission.
Ah putain. Bonjour et bienvenue dans Carte Blanche, ça fait un moment qu'on s'était pas vu, au moins 2 mois hein, de toute façon, et aujourd'hui petite émission spéciale, hein, je vais y revenir, mais je ne suis pas seul bien sûr, parce que c'est le principe de l'émission, je suis avec Thomas qui était déjà la dernière
oui,
fois, bonjour,
oui.
Tout va bien,
bah, ça va,
on est chez toi de toute façon, donc forcément,
on est chez moi, je suis un peu...
Thomas repose cette bière, dit-on dans le chat, oui je vais y revenir tout à l'heure, Jason, tu es
oui.
déjà venu
ouais, donc, ah j'étais venu une fois, c'était sympa.
Ouais c'était sympa, voilà, et nous avons un petit régional de l'étape, hein,
bah,
c'est
oui.
Nemo.
Oui un petit régional, bah j'habite...
Alors Nemo, on ne connaît pas vraiment.
Ah les gens ne me connaissent pas, j'ai pas
l'habitude. Parce que ici on est entre gens de la fac et tout, mais là...
Ah mais moi je travaille, je suis un vrai bosseur, tu vois.
Alors qui es-tu, si tu veux te présenter?
Bah, moi je m'appelle Nemo, j'ai 31 ans, je suis développeur informatique, je connais Vincent depuis un petit moment déjà.
Ouais, hein. Depuis 5 ans, 4-5 ans.
On organise un événement qui s'appelle PodRen ensemble, ouais. J'en profite pour faire la promo.
Et on fera la pub à la fin si tu veux.
Ouais non mais j'en fais aussi
vas-y, au début.
Et donc voilà, PodRen, premier week-end de juin à Rennes, rencontrer des podcasteurs, des poditeurs, ça va être génial.
Ça va être trop bien.
Je crois que c'est la première fois qu'on a un invité qui a un vrai travail, non?
Ouais.
Bah,
ouais,
c'est vrai. Et encore, ouais. Tu dis un vrai travail, je suis développeur informatique, ça.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Je fabrique pas des bombes nucléaires. Donc.
Pour nous, c'est une utopie. Hein, donc
Alors, juste comme je le disais, une petite émission spéciale, parce qu'avec les copains du comptoir, le comptoir, c'est le petit regroupement de podcasts qu'on a fait entre potes de fac. Hein. On va être en live toute l'après-midi, on va se relayer pour diverses émissions. Il y aura du foot, il y aura de la musique. Ce soir, il y aura La Cour des Miracles, voilà, l'émission phare.
Comme dit David, Nemo, c'est le Drucker du podcast.
Et justement, on est en live sur le hashtag comptoir live et les gens sur le chat peuvent converser avec nous, et il y a David, il y a Pierre Richard que je connais pas. Ouais,
est-ce que je peux lancer un sondage?
Ouais, vas-y.
Le hashtag comptoir live,
ah,
comme
Pierre
ça.
Richard, je doute qui c'est, mais non.
Parce que le hashtag, c'est la première fois que je fais un sondage avec un hashtag, mais David trouve que j'ai la voix de Michel Drucker. Alors votez comptoir live, puis du oui, puis comptoir live, dire non. Puis on...
Alors dites sur le chat, s'il y a des gens sur le chat, est-ce que Nemo a la voix de Michel Drucker? Moi je pense qu'il y a un petit quelque chose, mais il manque le chien qui va avec. Le chien était pas mort.
Ah, Michel Drucker jeune, hein, peut-être.
Bon, bref, petit sommaire. Nemo, de quoi tu vas nous parler rapidement?
Alors moi je vais faire mon otaku de service parce que je suppose que c'est un
peu... Ah tu es là, de toute façon je t'ai envoyé un message et tu m'as dit je te préviens, moi je fais l'otaku.
Voilà, je fais l'otaku de service, il a dit d'accord, donc moi j'ai fait bah ok. Donc on va parler d'un film de Ghibli qui est exceptionnellement n'est pas ni de Miyazaki ni de Takahata mais de Yoshifumi Kondo qui s'appelle, je donne le titre direct.
Ouais vas-y.
Il s'appelle Si tu tords l'oreille, et on va parler également d'un animé de la saison dernière, enfin de, je crois que c'était hiver 2017 si je dis pas de bêtises, c'est Miss Kobayashi Mad Dragon.
Alors, David nous dit, je peux tellement vous en dire sur Nemo, sur la culture vidéoludique. Ouais. Bon, on verra. Ça sent les private jokes.
Oula.
Aujourd'hui, ça va être private joke entre gens de Bad Geek, parce que tu es
de Bad Geek.
Disons. Jason, de quoi tu veux nous parler?
Oui, bah écoutez, moi je vais vous parler d'une série. Donc, c'est la série phare du moment en ce moment, c'est 13 Reasons Why sur Netflix. Et je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Enter the Gungeon, qui est sorti il y a un petit moment déjà. Mais...
Alors, je remarque que c'est la première fois que je viens dans une émission que quelqu'un a un aussi bon accent anglais.
C'est vrai? Tu le dis sans ironie?
Je le dis sans ironie.
En même temps, il y avait 19 de moyenne.
J'aurais pu le faire mieux. 13 Reasons Why.
Thomas, tu vas nous parler de quoi? Et puis
moi, j'ai parlé du film Logan, qui est sorti il y a un petit moment déjà.
Et on va pouvoir débattre.
Oui,
carrément. Tu vas dire que t'es pas content?
Non, j'ai un avis un peu particulier sur
ça.
Et autrement, je vais vous parler d'une petite pièce que j'ai regardée, qui était plutôt sympathique. C'est Je vous écoute, écrit par Benabar.
Voilà.
Ah cool.
Ouais. Ah bah voilà. Tu aimes Benabar?
J'adore Benabar.
Tu aimes Renaud?
Tiens.
J'adore Benabar.
Bah, vous êtes faits pour être ensemble.
Et regarde le poster qui est juste là.
Voilà. Voilà. Et puis on terminera l'émission avec qu'est-ce que ça traîne déjà, avec les trucs en plus, et puis on se dira au revoir, et puis toute façon l'après-midi continuera. Hein. On va commencer par le jeu vidéo, si ça vous dérange pas, c'est Jason qui va commencer.
Eh
allez
oui.
C'est parti.
Gamescom, c'est le plus grand salon européen dédié aux jeux vidéo. Ils ont des têtes d'abrutis, c'est terrifiant. La plupart du temps, ils sont dans leur chambre à jouer à des jeux vidéo tout seuls. C'est ceux qu'on appelle aujourd'hui des no-life. Hein, ils passent leur vie dans un monde qui est le monde du jeu.
Tu te rappelles de ça, Nemo?
Raphaël Enthoven, ce gros con.
C'était incroyable. Hein.
J'insulte Raphaël Enthoven, j'ai aucun...
C'est pas grave, tu fais ce que tu veux aujourd'hui. Jason?
Oui, bah écoute, en croire cette personne, je suis un no-life.
Tu es un no-life?
Ouais.
Et alors le geek, on fait le geek?
Ouais, je suis tellement un geek, je suis sur mon portable en ce moment, je suis un peu un geek, tu vois.
Oh, putain.
Oui, donc je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Enter the Gungeon. C'est un jeu qui est sorti il y a un peu plus d'un an, mais je tenais à vous en parler parce que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Alors, pour faire simple, Enter the Gungeon, c'est un roguelike. Alors, c'est-à-dire que c'est un jeu reprenant les bases de Rogue, un jeu ayant tenu pour référence dans de nombreux jeux. C'est... Le but est simple, descendre des étages d'un niveau généré aléatoirement jusqu'à battre le boss final.
Attention, alors... attention, il y a Nemo avec, donc tu... si tu dis une connerie...
C'est vrai. Ah ouais, non, mais... Non,
Nemo,
non,
il va gronder. Il fait des cafés débats, lui.
C'est vrai. Ah bah. Et donc, oui, il y a de nombreux jeux qui reprennent ce principe, hein, comme le très connu Binding of Isaac, Faster Than Light, Spelunky, ou encore Diablo, prenez du nom. Le Diablo 2, c'était pas vraiment un roguelike, parce que bon, il y avait quand même un scénario, toute une histoire. Mais là, c'est différent. Ici, on se retrouve dans un univers de science-fiction, où on nous apprend que sur une planète lointaine se dressait une gigantesque forteresse, sur laquelle une immense balle, donc une balle, une munition, quoi, s'est abattue, et qui détenait en son sein une relique inestimable. Alors cette relique, c'était un pistolet pouvant changer le passé, rien que ça. Et au fil des siècles, la forteresse s'est reconstruite autour de cette immense balle pour en former un vrai donjon, quoi. Ah. Où de nombreux aventuriers vont venir pour...
D'où le nom Gungeon.
C'est ça, voilà. Gungeon. Il y a de nombreux aventuriers qui vont venir tenter de dégoter ce trésor, ce fameux flingue. Donc le jeu tourne énormément autour de la thématique des munitions et des balles en général. Tous les ennemis sont dérivés de balles en fait. Les boss eux-mêmes portent des noms très représentatifs de l'univers du jeu. On a par exemple le roi balle, qui est une énorme balle posée sur son trône. Là, il y a
pas
un jeu de mots,
messieurs.
On a le canardeur, qui est un énorme canard qui est plein de muscles, qui nous assaille avec son minigun. On a l'armaconda aussi, qui est un serpent mécanique. Bref, vous avez compris le principe. Alors, on a le choix.
Gandalf vous dit que Enter the Gungeon est sorti récemment sur console d'ailleurs. Toi, tu as joué sur
console ? Ah, je sais. Bah, moi, j'ai joué sur PC en fait.
PC, ouais, ok.
Ouais, bah sur PC. Moi, je suis plus PCiste
que... Toi, t'es un mec du PC, toi.
Ouais, bah j'ai une console hein, quand même. J'ai une Xbox One, mais clairement,
C'était donc toi ?
Je préfère jouer sur PC quand même. Et oui, donc on a le choix de manier 5 personnages différents. On a le Marine, qui a une grosse puissance de feu.
Ah,
oui,
merde.
On a le Marine, qui est habillé en bleu d'ailleurs aussi.
Et il aime pas trop les autres persos.
Ouais, c'est merde, ça, il est dans son coin, il fait « Ah, cassez-vous ».
On avait dit pas de police.
On a aussi le pilote qui lui peut crocheter des serrures, tout simplement. C'est sa particularité. On a la condamnée qui peut lancer des cocktails Molotov. On a la chasseresse qui est équipée d'une arbalète et qui dispose d'un chien, son familier, qui peut lui déterrer des objets de temps en temps. Et on a la cultiste qui est en fait le personnage jouable en coop. Alors le gameplay en fait est très nerveux, tout va très vite, on est tout de suite imprégné dans l'univers du jeu. Donc comme dans tout roguelike qui se respecte, on a une grande partie de la réussite du joueur qui va être basée quand même sur le hasard et va dépendre des armes sur lesquelles on va tomber et sur la difficulté des salles également dans lesquelles on va se trouver. Alors le bestiaire et l'arsenal du jeu sont d'ailleurs très très complets. On a, bah moi j'ai après plus d'une quarantaine d'heures de jeu, en fait j'ai pas tout découvert en fait. Et j'ai d'ailleurs pas fini le jeu en fait.
Ah oui, il y a combien de... Ouais, ça doit être. Enfin, les roguelags, c'est souvent assez. Il y a des durées de vie assez dingues.
Bah, c'est immense. Mais en 40 heures, en fait, c'est peut-être là mon petit bémol. C'est que le jeu devient, en fait, je trouve extrêmement difficile en fait. J'ai pas fini le jeu et pourtant, j'estime que je suis pas un mauvais joueur.
T'es pas le dernier des. Hein.
Comparé à par exemple un Binding of Isaac où quand tu as bien saisi comment fonctionne le jeu. Finalement tu le finis assez vite et tu comprends comment ça marche,
t'optimises, quoi.
Voilà, c'est ça. Et là Enter the Gungeon, il y a une difficulté qui est vraiment exponentielle. Quand t'arrives à un certain niveau, les boss sont vraiment je trouve imbattables en fait. Et donc c'est peut-être le petit bémol de ce jeu qui, après c'est pas forcément un bémol hein. C'est parce que la difficulté, je trouve ça bien dans un jeu vidéo, parce que c'est ce qui te fait continuer et vouloir te dépasser.
Oui, carrément.
Mais voilà, en tout cas, c'est très difficile.
Mais moi, tu voulais.
Ouais, en fait, je voulais juste dire le gros problème pour moi de Enter the Gungeon, c'est qu'il est extrêmement difficile à jouer en solo.
Ah, il y a du multi,
ouais,
ça.
Ouais, il y a du multi et que le multi apporte beaucoup par rapport au solo. En fait, ce que je lui ai reproché, c'est qu'il jouait à deux, notamment, c'est assez kiffant, mais j'ai trouvé que le mode solo était un peu limite, enfin pas limité, mais un peu trop chaud pour un roguelike, parce que comme tu le disais, le vrai problème, c'est un petit peu ce manque de difficulté. Le pic est là dès le début et il continue à augmenter. Ouais. Et contrairement à un Rogue Legacy, par exemple, où tu peux t'amuser dès le début.
Rogue Legacy.
Ouais, Enter the Gungeon, il est là et te dit, mais t'es pas là pour t'amuser, mon gars, tu vas en chier. Alors que. Graphiquement, esthétiquement, c'est plutôt l'inverse, plutôt chaleureux.
Ouais, c'est ça, ouais. Esthétiquement, c'est super beau. Mais c'est vrai que moi, j'y ai joué qu'en solo à Enter the Gungeon. J'ai pas tenté en.
S'il y a du
multi.
Solo, ce serait plus le genre de jeu qui m'intéresse. Parce que moi, je vous avoue que les roguelikes, le fait de enfin les itérations de devoir recommencer à chaque fois, même si t'as des power-ups, j'imagine que enfin t'as des power-ups
oui, bah,
une fois sur l'autre,
de toute façon ou... ouais. Tu chopes un arsenal qui fait que de toute façon ouais. Tu vas être plus ou moins puissant.
Enfin moi je vous avoue que le fait de recommencer à chaque fois, c'est pas vraiment mon style de jeu. Déjà Binding of Isaac, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas.
Ah ouais,
ouais bah, c'est un univers aussi Binding
ouais,
of
voilà.
Isaac.
Ouais voilà, bon l'univers c'est pas ce qui me dérange, enfin Super Meat Boy, j'ai beaucoup joué à Super Meat Boy, c'est le même personnage qui a fait, tu vois, tu retrouves dans les musiques, tu retrouves dans les caractères et tout. Mais si sur ce genre de jeu, il y a du multi, là ça pourrait m'intéresser parce que jouer tout seul à ce genre de jeu, ça me plaît pas.
Je dis pas de conneries hein, c'est bien celui-là où tu peux me jouer à deux, je crois.
Ouais, tu peux jouer à deux, bah, tu fais des roulades un peu partout, ouais. Mais c'est
parce que c'est très très amusant hein, dans ce genre de jeu, c'est de voir les gens qui s'engueulent sur rien, c'est un peu ouais. Comme Overcook.
Ah ouais.
C'est Overcook où les gens sont... c'est pas de roguelike pour le coup, mais les gens s'engueulent. Mais c'est à toi.
Ça brise les amitiés, c'est ça qui est bien.
Ouais, pour 5 minutes.
Oui, pour 5 minutes, puis après on boit une bière et puis hey, allez tous ensemble.
Et donc voilà, ouais. L'esthétique du jeu, je trouve vraiment très très bien. C'est du pixel art un peu très bien géré, je trouve d'ailleurs. Et ouais, c'est vraiment très sympa comme jeu. Ouais.
Tu conseilles aux amateurs de roguelike?
Bah, ouais, tous les... Après, ouais, voilà, c'est-à-dire que. Si tu veux vraiment finir le jeu, il va falloir le torcher. Le jeu. Vraiment, il va falloir y passer des heures. Parce que ouais, plus t'avances, plus tu te heurtes à un mur. Quoi,
il y en a pour son argent.
David nous parle de Super Meat Boy, il a l'air d'adorer ce jeu.
Ouais, c'est un grand fan.
Ah, je suis un grand fan aussi, David. Hein, encore ah,
Super
encore
Meat Boy,
un petit point commun entre toi et moi.
D'ailleurs, si vous avez aimé Super Meat Boy, je vous conseille Splasher.
Ouais, Splasher, c'était pas mal. Et j'avais connu Super Meat Boy du temps où c'était encore le jeu Flash. C'était un jeu Flash. Et je l'ai saigné en jeu Flash. Hein. Et quand j'ai vu que le jeu était sorti en standalone, ça m'a fait vraiment plaisir.
Super Meat Boy, c'est excellent jeu. Ouais.
Un peu comme Splasher, où on a vu les devs pendant 2 années de suite, peut-être plus que ça, ouais.
Au Stunfest.
Et c'est quoi Splasher, du coup?
Splasher, c'est un jeu de plateforme action, comme Super Meat Boy. Ça ressemble... C'est un mélange entre Portal et Super Meat Boy, et c'est vraiment super bien foutu. C'est un jeu où, si t'es pas fan de speedrun, eh ben, en fait, le jeu va un peu te pousser à faire du speedrun sans vraiment t'y forcer.
Bah, un peu comme Super Meat Boy, au final. Moi, je sais que plus je jouais à Super Meat Boy, plus je disais, putain, là, je peux battre mon temps, là, j'en suis sûr. Et j'en suis arrivé à un point où vraiment je me chronométrais.
Je termine là-dessus. Dans Splasher, c'est là où c'est encore plus fort, c'est que c'est même pas une question de temps. Ils font ça par le level design. C'est-à-dire faire les niveaux lentement, c'est possible, mais c'est pas fun. Tandis que les faire rapidement, le jeu te fait très vite comprendre. Ah, tu vas voir, c'est fun si t'arrives à enchaîner et tout. Et du coup, par ce truchement, pour utiliser un mot scientifique, il te pousse à faire du speedrun, ce qui est plutôt cool et ce qui est plutôt totalement en raccord avec l'esprit du Stunfest.
Donc ça s'appelle Hunter the Gungeon. Tu l'as payé combien, si tant est que tu l'as payé?
Je sais plus si je l'ai payé. Je paye mes jeux maintenant.
Ah, c'est bien.
C'est fini l'époque où je ne paye plus mes jeux. Non, je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que c'était pas très très cher. Ouais, je sais plus. Ouais, c'est dans ces eaux-là.
Vous en avez pour votre pognon. Et si vous aimez l'univers graphique, vraiment, allez-y.
Ah, ouais, donc, c'est...
Ça s'appelle Hunter the Gungeon. Rapidement, si vous avez un jeu vidéo à conseiller en plus.
Oh là là.
Alors, toi, je sais que tu vas parler, vas-y.
Astérix XXL.
Oui, parce qu'il se fait un revival PS2.
Mais il est bon, il est très bon.
Astérix Obélix.
On l'a racheté et franchement, c'était sur PS2, c'est vraiment cool.
Assez mal jugé à l'époque parce qu'il était sorti dans un contexte où il y avait beaucoup de jeunes gens. Moi, je conseillerais Persona 5 en plus
Persona
de Zelda.
Persona 5
en plus de Zelda.
Fan des personnages.
Je suis pas du tout un fan des personnages, je suis pas un fan de JRPG, mais j'adore Persona 5 pour ce qu'il raconte. J'y ai joué que 4-5 heures, je suis hype à mort, c'est pour te dire. C'est un peu comme si je me lançais dans un jeu de foot et que d'un coup, je découvrais que c'était bien. Non, mais vraiment, moi qui déteste le foot et moi qui n'aimais pas les JRPG, c'est vraiment un jeu génial. Et bien sûr, si je le dis pas, David va me tuer, mais Zelda, bien sûr, le dernier Zelda.
Moi, j'ai un petit jeu vidéo, mais j'en parlerai après. J'en parle maintenant, je suis con, parce que c'est la rubrique jeux vidéo. Très rapidement, alors déjà, David se fout de ta gueule sur le chat en disant Nemo Drucker. Voilà, je sais que vous vous aimez bien tous les deux. Oui, parce que nous sommes en live, je vous rappelle, il y a le hashtag Comptoir Live. Et j'ai rejoué, alors je vais pas en parler longtemps, mais j'ai rejoué à Grim Fandango. Qui est un jeu LucasArts qui est sorti. Alors là, je le fais de tête parce que j'ai rien préparé.
Tu veux qu'on regarde sur Wikipédia?
Alors, tu as la page Wikipédia.
Je vais regarder Wikipédia. Vas-y, dites la merde et je te corrige après.
C'est sorti en 98 par LucasArts. On suit Manny Calavera. C'est un agent. Alors, ça se passe dans le monde des morts. Était un agent de voyage, un agent qui est chargé d'emmener les morts jusqu'au paradis, enfin jusqu'à ce qui ressemble au paradis, sur un voyage de 5
98,
ans. 98, t'as bon. 98. Oh, donc. Et ce jeu est génial dans son univers. Déjà, tu incarnes Manny Calavera, donc c'est un squelette. En gros, tu incarnes un squelette dans le monde des morts. Et tu as toute cette petite patte hispanique, aztèque. On va dire aztèque, je pense que c'est plus ça.
Ah ouais, je crois que ça faisait très mexicain.
Alors, c'est assez mexicain. Voilà, donc on a beaucoup de références à. au thème de la mort mexicain, Dia de los Muertos, ce genre de truc.
L'île de la Muerte.
L'île de la Muerte. Tu as des super énigmes assez loufoques. Ça, j'ai vraiment aimé. Il y a une version, d'ailleurs, remasterisée qui est sortie
l'année dernière ou l'année d'avant.
Voilà, ça coûte.
C'était la grande mode. Puis on parlait des revivals, ouais. C'était la grande mode. Et puis là, un jeu de Tim Schafer, forcément, il allait ressortir.
Franchement, c'était un de mes jeux préférés à l'époque. Et je regrette pas de m'être remis dedans. Bon, j'ai hâte d'y retourner, bien sûr. Là, j'ai fait 2 heures à peu près. Il y a certains passages qui me saoulent un peu quand on est dans la forêt. Enfin bref. Ouais, et c'est un excellent jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, pas ici, qui l'ont fait. Parce que
Moi, je m'y connais pas vraiment.
Parce que
petite
fun
vidéo,
fact, Halloween dernier, je m'étais déguisé en Manny Calavera, en faucheuse.
Ah, mais oui, d'accord. D'où le masque.
Et personne n'avait reconnu. Je me sentais bien triste. Oui, t'aurais évidemment reconnu, mais personne n'avait reconnu ici. Ouais, et j'étais assez triste.
Mais du coup, vu. Après que tu m'en aies parlé, j'ai regardé un playthrough de Grim Fandango pendant que je travaillais parce que moi je pouvais travailler sans rien faire. Et du coup, c'est vrai que ça avait l'air sympa. Ouais.
Et il faut parler de l'ambiance, la musique.
Et l'ambiance la musicale qui est incroyable. Et enfin, dernier conseil de David sur le chat dans le genre petit bon jeu Limbo, Braid, et je conseillerais Inside.
Alors, j'aime ni aucun des trois. Braid, j'ai pas accroché au concept, Limbo non plus, donc. L'univers me plaît pas.
Inside et Little Nightmares qui est sorti aussi, qui ressemble un peu à Inside et à Limbo,
petit
si vous aimez
ce genre
de jeu. Nous allons passer au cinéma. Ça va être Toto qui va commencer. Tu vas commencer par quoi d'ailleurs?
Je sais pas, pif paf pouf. Tiens, je vais commencer par Logan.
Eh ben, écoute. Et nous avons Cobal sur le chat. Coucou Cobal, ça fait plaisir que tu sois là.
Salut Cobal.
J'aimerais que tu sois là avec moi.
Allez, Cobal est là, fond de bière tiède pour tout le monde.
Alors Thomas.
Oui, alors, s'il vous plaît, ne me jugez pas, je suis pas un super professionnel.
Pas un professionnel du podcast.
Voilà exactement, on va dire que si je suis là, c'est parce que vous êtes là chez moi. Donc, je vais vous parler de Logan. Alors c'est un film qui m'a beaucoup plu, après on pourra en discuter avec toi Nemo. Alors Logan, pour résumer un peu, c'est dans un futur proche, on a un Logan épuisé, fatigué, qui s'occupe d'un professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine. Donc Logan se retranche du monde et rompt avec son passé, jusqu'au jour où une jeune mutante, traquée par de sombres individus, par des méchants monsieur, va se retrouver dans sa vie. Voilà. Donc le réalisateur est James Mangold. Voilà. Donc je ne sais pas.
Je ne me suis pas renseigné. Super bossé.
Voilà. Donc non. En gros,
c'est la page Wikipédia remaniée.
Il a pas fait grand chose, je crois, avant d'ailleurs.
Non, d'ailleurs, ouais. Voilà. Alors,
je vais voir.
Non, il n'aurait pas fait Dracula.
Je suis en compte invité sur mon PC. Je suis sur Microsoft.
Bref. Alors il y a un casting assez intéressant. Alors du coup, on a Hugh Jackman, évidemment, hein, comme toujours.
Le seul unique.
On a Patrick Stewart. Évidemment pour
le seul unique
pour professeur Xavier. Nous avons Daphne Quinn
la seule,
ouais, qui est la petite fille qui s'est d'ailleurs, je dois le dire, s'est entraînée beaucoup, enfin vraiment extrêmement bien, enfin c'est beaucoup entraînée pour le combat avant le tournage chez elle en Espagne. Autrement, il y a Boyd Holbrook qui est le nouveau méchant, qui a joué l'agent traquant le gangster mythique Pablo Escobar dans la série Narcos.
Ah, Narcos, faut que je regarde d'ailleurs.
Je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Alors autrement, il y a Stephen Merchant, le compagnon mutant de Logan, qui est Caliban, mais voilà. Donc autrement, il y a Elisabeth Rodriguez qui joue la mère de la petite fille et Richard E. Grant qui joue le docteur Xander Rice. Voilà. Qui
est... Juste Stephen Merchant, il est connu par avoir collaboré de nombreuses fois avec Ricky Gervais sur The Office et ce genre de
trucs.
C'est bizarre de le voir dans un rôle comme
mais
ça.
D'ailleurs, je l'ai même pas reconnu. Franchement, il s'est vachement bien fait. Autrement, donc voilà, nous avons un Logan. Donc évidemment, que c'est le troisième film basé sur Wolverine. Alors moi, je tiens à dire que Wolverine, c'est, je pense. Pour moi, les meilleurs films de X-Men. Alors voilà. Alors toi, t'es pas d'accord.
Okay, Wolverine Origin.
Mais c'est parce que je suis amoureux de ce personnage. Donc, en tout honneur. Et comment donc Logan justement est dans le troisième film avec Wolverine après X-Men Origin. Donc évidemment, il y a eu Wolverine en 2009, le 1. Il y a eu Wolverine.
J'ai pas aimé.
Franchement, j'ai vraiment bien aimé le Wolverine, le combat de l'immortel 2013 que j'ai pas aimé. Et voilà.
Bon, ah, comme quoi.
Voilà.
Autrement, en revanche, il s'agit du 9e film avec Hugh Jackman, qui incarne le personnage de Wolverine dans X-Men, X-Men 2, X-Men 3, l'affrontement final, X-Men Origins, Wolverine, X-Men Le Commencement, Wolverine Le Combat de l'Immortel, X-Men Day of Future Past et X-Men Apocalypse. Qu'on voit.
Les derniers que j'ai moyennement.
X-Men Apocalypse, ouais, j'avoue que j'étais pas terrible, terrible.
Donc, bonjour Azertov sur le chat, salut à toi.
Salut Azertov.
Alors concernant le scénario, c'est un scénario qui a été inspiré de la série des comics book Old Man Logan de Mark Millar, dans laquelle le héros apparaît vieux.
Oui, donc, il est plus vieux, il a plus vieux, enfin je parle pas du temps qu'il fait, mais
non, évidemment.
Ses pouvoirs s'amoindrissent, il devient un peu vieillot. Ouais,
alors
Son pouvoir de résurrection commence à se tarir et tout.
Carrément, voilà, c'est ça. Et là, je vais parler un peu de ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce film. Donc, je trouve que ce film est violent, vulgaire et je peux même rajouter sombre, franchement, par rapport aux autres films de Wolverine à la base. Donc, autrement, en France, il a été interdit au moins de 12 ans avec un avertissement. Donc, non, mais franchement,
ouais, c'est limite. Hein, moi, j'aurais fait moins de 16. Hein.
Bah, ouais. Pour un film d'X-Men, je pense qu'ils ont été public à l'époque quand ils sont sortis.
À l'époque, oui, mais franchement, quand tu regardes dès le premier coup de griffe,
c'est bisounours, ça reste.
Dès le premier coup de griffe, dès le premier coup de griffe, tu vois vraiment comment ça va se passer pendant tout le film, quoi. Tu vois, c'est gore, tu vois la petite fille qui coupe les têtes et tout, vraiment, c'est génial. Moi, j'adore ça, mais autrement.
Toi, la violence,
j'adore ça,
toi, tu pourrais dire que la violence, tu cautionnes.
Ah, moi, la Corée du Nord, Marine Le Pen.
Je vais cautionner aussi. La violence, c'est le gros point fort de ce film. Ouais. C'est-à-dire que pour une fois, moi, j'aime pas les films Marvel, de manière générale. Ouais. Mais le problème, enfin, l'avantage de Logan, c'est que pour une fois, on a des super-héros. On a un mec qui a des griffes et on ressent physiquement la violence des combats. C'est super important.
C'est pas édulcoré, quoi.
On a un réalisateur qui fait ce qu'il aime, qui fait ce qu'il veut, et ça fait du bien, un bien fou à voir ça à l'écran. Il y a une violence qui est stylisée, elle est super bien faite, et franchement, c'est le gros point fort du film. Pour moi, le point faible,
c'est cette tendance dont tu parlais. Les films sont tellement édulcorés que, en fait, cette tendance à pas montrer les morts à l'écran. On voit jamais de morts, on parle jamais des victimes, ce genre de trucs. On voit jamais vraiment de cadavres à l'écran, ce genre de trucs.
Mais ça m'a fait vraiment penser aussi au jeu vidéo Wolverine.
Et Marie qui nous fait coucou.
Coucou Marie.
Salut Marie.
Ah, alors salut. Bon bref, je continue. Alors oui, non, ça m'a fait vraiment penser un peu à l'ambiance du jeu vidéo, les cinématiques, parce que Vincent...
Le jeu, oui, je l'ai fait, le jeu du en entier. Wolverine.
Il n'est pas terrible, mais bon. Voilà,
si, il était bien.
Oui, bon, c'est un jeu comme un autre. Mais autrement, non, oui, il faut rajouter que justement, cette interdiction est la plus sévère devant les films de la saga X-Men. Et d'ailleurs, le record était détenu par Deadpool, à moins de 12 ans. Donc
voilà.
Ouais.
Mais on remarque quand même vraiment la vulgarité. Maintenant, on a un professeur X. Avant, professeur X, c'était vraiment l'exemple des X-Men, quoi. Il était le sage. Et là, à un moment, on peut l'entendre pendant le film en train de dire putain de merde, qu'est-ce que tu m'as fait bien chier. Tu vois,
David nous dit à ton encontre, Nemo, que c'est un film Fox, pas Marvel. Mais
oui,
je pense
c'est
que
un film de Fox.
Tu mets ça dans tout le même.
Et d'ailleurs, justement,
moi, j'y connais rien dans ce monde des comics. Il n'y a pas de porte d'entrée. Donc,
il a tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça a été très difficile de convaincre la Fox, justement. Voilà.
Alors, je crois que c'est le jeu Wolverine par Raven Software. C'est le Wolverine Origin, le jeu, bien sûr, Gandalf.
Oui, oui, c'est ça. Donc, autrement, justement, Hugh Jackman a demandé à renoncer à une partie de son salaire pour être justement pour que cet ultime volet soit justement plus vulgaire dans la classification R.
Ah oui,
donc, son but, c'était une interdiction aux mineurs de moins de 17 ans sans accompagnant. Donc, voilà.
Ouais.
Donc, voilà, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce film. On reconnaît pas vraiment le style Marvel, vraiment. C'est totalement différent.
Pas Marvel, du coup.
Voilà. Non, mais c'est ça qui est bien. Je veux dire, ça change carrément. Et là, on a un Wolverine malade. C'est ça qui est bien, justement. On avait l'image de Wolverine qui était tout le temps immortel. On savait qu'il allait jamais mourir.
Là, il est
faillible. Du coup, là, tu te demandes à chaque fois est-ce qu'il va mourir, quoi. Et ça, c'est ça.
Est-ce que ça rajoute pas un peu de l'enjeu au film quelque part? Il peut crever à tout moment.
Ah, mais carrément. Et surtout,
c'était pas le cas dans les autres.
Non, faut pas non plus exagérer. Ça reste un film qui est extrêmement. C'est mon gros reproche, en fait.
Ouais.
C'est que ce film, en fait, moi, j'ai tout vu venir. Je me disais, il va se passer ci, il va se passer ça. C'est extrêmement classique. Ça a aucun propos. Mais c'est dommage parce que là où. Enfin, en fait, moi, le problème, c'est que j'y connais rien à cet univers. Et comme souvent dans les films d'adaptation de comics, c'est quand tu connais pas les personnages, et ben au final, il y a rien qui fait pour te rendre en empathie avec eux. Moi, le professeur machin, le vieux là, au final,
tu connaissais pas.
Mais non.
Ouais.
Donc voilà.
Et c'est... T'as pas vu les anciens X-Men?
Non, j'ai pas vu les anciens X-Men, mais je considère qu'un film.
Si t'avais eu le passif, peut-être que.
Peut-être, mais je considère qu'un film n'a pas besoin d'un passif pour forcément s'apprécier à sa juste valeur.
Mais là, c'est... après, ça dépend. C'est ça qui a fait le truc, je trouve.
Bah, après, le problème, c'est ça. C'est que si c'est le passif qui fait le truc, pour moi, c'est un film raté. Parce que, merde. En lui-même. Mais c'est une opinion très personnelle là-dessus. En revanche, j'ai quand même pas passé un mauvais moment, ce qui m'était pas arrivé sur d'autres films.
D'accord.
Mais franchement, j'ai trouvé que ce film est extrêmement intéressant. Pour sa réalisation, j'attends vraiment que le réalisateur fasse autre chose, limite dans un univers nouveau où cette fois je pourrais rentrer un peu plus en empathie avec les personnages. Je considère que c'est pas un mauvais film, mais voilà, je me suis un peu embêté parce que dès qu'on sortait de la violence, dès qu'on passait aux scènes de scénario, bah, j'en avais pas grand chose à foutre et au final, je voyais les trucs venir.
Je suis d'accord avec toi, il y a certaines parties du film où j'ai trouvé ça assez pas gnangnan, mais c'était tellement différent de l'ambiance violence et tout que c'était un peu. Ça faisait bizarre quoi. Et justement, c'est là que justement, j'étais très content de voir une petite fille, un enfant en train de tuer des gens. Enfin, franchement, c'est pas souvent qu'on voit ça au cinéma. Ouais. Petite anecdote, juste, il y a Logan dans ce film a comme job de conduire des limousines et de conduire des personnes connues. Et il y a une limousine qui a été inspirée, justement, sa limousine qui a été inspirée de la Chrysler 300. Voilà. Hein, donc.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Donc voilà, et ça a été très difficile, dit le technicien automobile Nick Pug.
Merci à Allociné ces anecdotes de tournage.
Hein. Et ben exactement, mais franchement, voilà, je t'emmerde. Voilà.
Bon, tu conseilles quand même le film ?
Alors, je conseille vraiment le film. Si vous avez aimé les X-Men, vous allez adorer le Logan. Si vous n'avez pas vu les X-Men, vous allez probablement aimer le Logan.
Et je conseille ce film ne serait-ce que pour l'exercice de réalisation.
Exactement. Très bien. Et oui, un dernier petit truc.
Bah vas-y, dépêche.
Il a été inspiré de plusieurs films d'ailleurs. C'est important de le dire parce qu'il a été inspiré des Cowboys, de la comédie dramatique de La Barbe à Papa en 73, le thriller d'action de L'Épreuve de Force en 77, le road movie de Little Miss Sunshine 2006. Bon, j'en connais pas la moitié, mais en tout cas, dans les Cowboys, je connais un petit peu. Et justement, on le voit dans les vêtements, ça a été vraiment inspiré de western et trucs comme ça.
Nemo, c'est à toi.
Ouais, bah petit son peut-être pour commencer, on va parler de Si tu tends l'oreille.
Alors, Si tu tends l'oreille, c'est ça. Cremona, c'est quelle ville ? C'est une ville de bonne ville. Oui, c'est une ville de bonne ville. Tu es le chien de
l'oreille ? Tu es le chien de l'oreille ? Tu es le chien de l'oreille ? Alors que Nemo sort sa fiche Wikipédia.
Voilà, j'ai ma fiche Wikipédia. Non, parce que je prépare pas, en fait. Non,
mais mauvais élève.
Mais Si tu tends l'oreille, c'est vraiment mon dernier gros coup de cœur cinématographique. En tout cas, c'est un film du studio Ghibli qui est fait par un réalisateur qui est peu connu puisqu'il est mort en 1998. C'est un film de 95 qui s'appelle Yoshifumi Kondo, donc Si tu tends l'oreille, qui aurait dû être le successeur d'Hayao Miyazaki. D'ailleurs, c'était plus ou moins prévu.
Il sortait pas de retraite tous les deux ans.
Non, mais en fait, à la base, c'était prévu que ce soit lui qui prenne le relais. Mais voilà, comme il est mort, Miyazaki a dû revenir et on a pu avoir les films suivants. Bon, on va pas s'en plaindre, mais malheureusement, ça reste une tragédie parce que c'est un foutu chef-d'œuvre. Alors, je vais résumer rapidement l'histoire. Si tu peux baisser complètement la bande-annonce. Voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune fille. Alors, c'est très, très. Je dis, Miyazaki est à fond. C'est une histoire très Miyazaki, mais il était très, très impliqué dans le projet, même s'il n'est pas le réalisateur. Parce que de toute façon, c'est un control freak. Donc, il est obligé. Donc, rapidement,
pour avoir aussi des œuvres du niveau de Ghibli aussi.
Ah oui, voilà,
il faut. Obligé d'avoir un...
Voilà, mais on pourrait donner des tas d'anecdotes sur Miyazaki, mais je vais pas le faire. Du coup, l'action se déroule dans les années 90. Donc, c'est dans banlieue, ça se passe en banlieue de Tokyo. Et l'héroïne est une héroïne assez intello. De manière générale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui passe son temps à être bloqué à la bibliothèque de son collège. D'ailleurs, son père tient une bibliothèque et elle va s'apercevoir au début du film qu'il y a un garçon qui emprunte les mêmes livres qu'elle juste avant.
Oui. Rappel juste pour Kobal, le titre du film.
Ah, le titre du film, c'est Si tu tends l'oreille ou Mimi wo Sumabesa en japonais. Voilà. Il est sorti en Blu-ray et en DVD en France, malheureusement avec pas beaucoup d'exemplaires parce que c'est pas un film très connu mais que je vous conseille vraiment. Donc cette jeune fille est une pure. Vas-y, tu peux me montrer s'il y a une caméra, je ne sais pas.
Non, il n'y a pas de caméra ici parce qu'on n'a pas la bande passante.
Voilà, c'est ça. Donc cette jeune fille passe son temps à la bibliothèque, son père est bibliothèque et elle vit dans une famille relativement modeste et donc elle va s'apercevoir qu'un garçon emprunte des trucs avant que lui. Donc c'est une, je ne vais pas dire c'est une comédie romantique, mais c'est une histoire romantique qui tourne autour de la vie de cette jeune fille. philosophie. Et c'est assez difficile à expliquer parce que c'est une histoire qui va tourner autour de sa curiosité. C'est-à-dire, au début, elle va se demander qui c'est ce mec. Puis tout à coup, en suivant un chat en sortant du métro, elle va se retrouver dans une boutique.
La thématique du chat est très présente. Hein.
Voilà, bah oui, puisqu'elle va se retrouver dans une boutique qui vend des antiquités, dont une statue de chat qui s'appelle donc le chat Baron, qu'on verra après dans le film Le Royaume des Chats. Même si je pense pas que les deux histoires soient vraiment liées, ou alors peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai du mal à expliquer pourquoi ce film est aussi bien, mais c'est un film qui transpire l'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a une... Comment expliquer ? Il y a à la fois une romance, mais aussi cette jeune fille, elle se construit puisqu'elle va vouloir écrire une histoire, elle va vouloir écrire un roman, et c'est tout le travail de l'écriture, tout le travail de la découverte, en quelque sorte des sentiments et de l'adolescence. Et c'est pas simplement ce qu'on voit beaucoup dans les séries animées aujourd'hui. Oh là là, c'est difficile d'être un adolescent de nos jours, c'est vraiment pas facile.
Qu'est-ce qu'on te disait sur les accents ?
On m'a rien dit sur les accents.
Ah non, parce que la privée joke, c'est que Nemo est pas très bon en accent.
Je suis pas du tout bon en accent.
D'accord. C'était un accent belge.
C'était absolument pas un accent, c'est un accent ridicule. C'était un peu comme dire je suis une femme distinguée.
Ça j'aime bien ça.
Et donc voilà, on est loin de la caricature de l'adolescente qui découvre la vie et à quel point c'est pas facile. Non, vraiment, il y a un amour à la fois de l'animation, puisque c'est un film de Ghibli, et il y a certaines scènes qui sont complètement ouf en termes de décor. Et
ouais, le décor, j'allais dire, c'est parce que déjà, voilà, en regardant
la jaquette du Blu-ray est pas très très représentative, puisque c'est une scène très particulière dans le film.
Ah, oui,
mais ça représente quand même pas mal en fait c'est un film qui met en avant l'imagination et l'ouverture.
C'est un peu pensé à Château dans le ciel quand je vois comme
ouais
ça,
bah c'est Ghibli, vraiment, de toute façon ils ont un style, mais c'est un film qui porte des bonnes choses. C'est il vous dit voilà, c'est pas facile d'écrire, c'est pas facile de faire de l'imagination, mais diable que ça vaut le coup. Et les relations humaines, c'est pas facile, mais diable que ça vaut le coup de s'investir. Et en quelque sorte, c'est un film extrêmement positif qui met en avant l'intelligence humaine, les artistes, la beauté, tout simplement. C'est un film qui a du cœur, c'est un film qui est beau, et voilà. Et je l'aime, ce film. Et dans ces périodes où tout est un peu gris, et ça fait un bien fou.
C'est vrai.
Si vous vous sentez pas bien,
un petit coup d'espoir.
Voilà. Si vous vous sentez pas bien, regardez Si tu tends l'oreille, et vous vous sentirez mieux. Vous avez des petites étoiles qui brillent dans les yeux. Alors le film est un peu vieux jeu, faut quand même le dire, au niveau des relations, on est quand même au Japon, mais
assez prude.
Alors non, c'est pas prude, c'est plus vraiment vieux jeu dans ces relations où il y a un côté pas forcément amour unique, mais ça reste très prudent, très beau,
très
c'est
calme,
artistique, c'est très intellectuel. Ouais. Voilà. Vraiment très intellectuel. C'est
avec certains principes. Enfin,
il y a pas de morale vraiment. D'accord. Là-dedans, mais c'est très intellectuel, très posé, très calme, et c'est juste très très beau. Et j'ai pas pleuré à la fin de ce film, mais vraiment je me sentais très très bien à la fin. Je me dis mais qu'est-ce que c'est beau, et après tu pleures parce que tu dis que ce mec ne fera plus jamais de film alors qu'il était vraiment génial.
Et il est décédé quand, tu veux dire?
En 98.
Ah,
et putain, date de 95.
Ouais. Ah putain, mais on dirait pas comme ça.
Et donc c'est vraiment le film est magnifique. Alors je sais pas s'il est vraiment trouvable facilement aujourd'hui en Blu-ray, parce que moi je l'avais plus ou moins acheté à sa sortie et j'ai mis des années avant de le regarder. Mais voilà, c'est si tu tends l'oreille, je manque de mots pour expliquer.
Mais je connais ton amour pour les Ghibli,
ça m'a l'air d'être comme souvent chez Ghibli, ça m'a l'air d'être vachement contemplatif aussi.
C'est pas forcément contemplatif, le rythme est lent. Il y a des moments un peu plus rapides, mais le rythme est extrêmement lent, puisqu'on parle de l'histoire de quelqu'un. Il n'y a pas vraiment d'ellipse, si tu veux, pour dire genre 2 ans plus tard il s'est passé ça. Non, on accompagne vraiment l'héroïne, donc je vais quand même citer le nom, c'est Shizuku. Et pour terminer, deux choses. Shizuku est un personnage génialissime. C'est un peu comme dans beaucoup de Ghibli, c'est une jeune femme idéale, parce qu'elle a beaucoup de qualités, elle a des défauts, mais elle a beaucoup de qualités. C'est un personnage fascinant. Et il faut dire quelque chose, la musique, j'ai oublié qui avait réalisé la chanson, mais faut que je me regarde sur Wikipédia, j'ai envie de dire, soyons 2.0.
Démerdez-vous.
Voilà, non mais la musique est absolument fantastique, et c'est un film qui tourne autour du son. Ça s'appelle Si tu tends l'oreille, et il y a une scène de chanson. En fait, au début, elle essaie d'écrire une chanson, une adaptation japonaise de la chanson Country Road, et à un moment donné, il y a une scène où il y a plus ou moins une fanfare, enfin une petite musique qui s'improvise. Donc voilà, c'est beau à l'image, au son et dans le propos.
Et reprends ton souffle.
Mais je suis pas étouffé. Je parle toujours comme ça.
Il est amoureux.
Voilà, j'adore ce film. Voilà.
Très bien, merci. Ce sera tout, Nemo.
Bah, je crois que c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. Thomas, on continue avec toi parce que alors tu as fait dans l'originalité, tu m'as mis une pièce de théâtre. Donc
oui.
Voilà. Alors je sais qu'il y a des coupures sur le chat et on va essayer de régler ça après l'émission. Il faut éventuellement faire play pause. Hein. Désolé.
Et donc pour Cobal, le titre du film, c'est Si tu tends l'oreille, puisqu'il reposait la question.
Non, je pense
tends bien l'oreille, Cobal. Si tu tends l'oreille.
Voilà. Thomas, c'est à toi.
Oui, alors moi j'ai fait une pièce de théâtre. Enfin, j'ai fait. Non, j'ai pas fait. J'avais parlé d'une pièce de théâtre.
Si tu vas le faire, du coup.
Oui,
ça, c'est une autre
alors histoire. Oui, mais ça, je vais en parler après. Mais du coup, non, je vais vous parler de Je vous écoute, écrit par Benabar et joué par Benabar.
Donc là, on est sur le thème de l'audition, quoi, clairement.
Exactement, ouais, mais non, alors je vais vous lire. Alors, je vais vous faire deux résumés. Je vais vous lire le résumé que justement, écrit par.
Par Wikipédia.
Pour accueillir par Benabar, voilà. Avec
en chanson.
Avec la guitare et tout qui va avec.
Et les sièges aussi dans lesquels vous insérez, ce sera du Benabar.
Exactement.
D'ailleurs, il est là, hein, Benabar.
Il est là, Benabar. Ouais, salut, ça va. Bon. Bref. Et du coup, non, je vais.
On avait dit quoi sur les accents?
Je suis aussi bon que toi. Voilà, donc, concernant voilà, le résumé pour donner envie au public, alors je vais vous le lire. En échange, le psy évite normalement de vous traiter de con ou de vous humilier. Ici, ce n'est pas tout à fait ça. Et d'ailleurs, pourquoi ces deux types, un cuisiniste et un psy, vont-ils passer ensemble la plus étrange journée de leur vie? À cause d'une femme, bien évidemment. Alors,
ça sent le vaudeville. Hein.
Alors, voilà, exactement. Non, en gros, c'est pas une pièce extraordinaire. Enfin, je me faisais clairement chier chez moi. Je cherchais des trucs en streaming à regarder. Et en gros, bah, je suis tombé sur cette pièce de théâtre. Et
du coup, la misogynie sera un parti pris.
Alors non, en fait, non, vraiment pas. C'est vraiment justement quand j'ai vu. C'est pour ça que je voulais le lire parce que c'était complètement à côté. Non, en gros, ça parle d'un cuisiniste qui décide de se rendre chez le psy de sa femme, pensant que la thérapie qu'elle suit depuis près de 2 ans est le motif de sa rupture. Donc le psy en question, qui est Benabar, a beau lui expliquer que c'est de lui que vient le problème, et il, sachant qu'il ne veut rien entendre, et il le tient en otage avec une grenade. Voilà, c'est assez important.
Ah, d'accord.
Donc, alors, le casting est assez intéressant parce qu'il y a deux sortes de casting. Alors, il y a David.
Il y a les castings du dimanche.
Moi, j'ai regardé ce casting-là. J'ai regardé avec David Mora qui joue dans.
Scène de ménage.
La scène de ménage.
Fabien dans Scène de ménage.
Voilà.
Je n'ai pas la télévision.
Sarah Biassini, que je ne connais pas. Et bien sûr, Bruno Nicolini, qui est Benabar. Et il y a bien sûr maintenant, en ce moment, c'est Pascal Demolon qui joue.
J'aime bien Pascal Demolon.
Oui, qui est l'acteur qui joue l'organisateur de mariage dans Fais pas ci, fais pas ça. Et Zoé Félix qui joue le Travelo dans Very Bad Blague. Enfin, je sais pas.
Okay. On a des connaissances ici, c'est impressionnant. Hein.
Et oui, le fameux Travelo.
Et oui, si vous le savez, c'était le 3e éliminé dans Top Chef 2016.
Il y a tout un point de culture que t'imagines pas ici. Hein.
Et voilà. Donc bref, en tout cas, voilà, moi j'ai vu le premier. Donc j'ai trouvé que c'était une pièce agréable. Vraiment, tu passes un bon moment. C'est pas une pièce extraordinaire. Il y a un bon jeu de rôle. Il manque peut-être une intrigue, évidemment. Ça c'est vraiment le gros souci. On s'attend à
tout. Quand t'as pas d'intrigue, laisse tomber.
Non mais là on s'attend à tout. Mais le jeu de Benabar reflète vraiment bien l'ambiance de ses concerts. Alors, je sais pas, vous avez peut-être pas entendu les concerts de Benabar, mais ça reflète bien un peu l'image qu'il donne dans ses concerts. Oui, parce que j'aime beaucoup Benabar, c'est pour ça que
moi
j'ai regardé. Alors voilà. Et donc autrement, bah il y a une bonne répartie entre les personnages parce que il y a beaucoup de punchlines entre le psy et le cuisiniste. Ouais, ça va être un peu
les psy, trucs
marrants, voilà. Et bon, c'est là où ça bloque un peu, c'est que bon bah il y a la blague assez connue, bah du placard.
Qui
marche toujours, et voilà. On voit le placard, on sait tout de suite qu'ils vont utiliser le placard. On sait pas.
Bah oui, ça s'appelle le fusil de Tchekhov, Thomas.
Oui, non, mais voilà.
Tout ce qui est sur scène a un intérêt.
Non, mais je sais, évidemment.
Mais le fusil de Tchekhov, ça sert à flinguer celui qui utilise la scène du placard. En fait.
Ah, d'accord.
Tout ce qui est montré sur scène a un intérêt. Donc s'il y a un placard, c'est qu'il va être utilisé.
C'est un des gros problèmes de la saison 4 de Sherlock, d'ailleurs.
Ah, d'accord. Bon. Ah bah,
ne
m'en dis pas plus. Donc ouais, il y a une bonne répartie entre les personnages. Donc justement, qu'est-ce que je disais? Oui, alors il y a un moment d'émotion, évidemment, hein, c'est drôle, mais il y a des moments d'émotion hein, entre
c'est
les deux personnages. Alors je vous parle beaucoup des deux personnages, parce que c'est vrai que bah, la fille, on la voit pas beaucoup, en fait. En fait, on la voit à la fin. Donc il y a beaucoup de critiques, bon il y en a plein, c'est critiques de ceux qui avaient vu le spectacle. Donc ils disaient qu'elle arrivait un peu tardivement et que c'était... Et que, enfin, voilà, on la voyait pas beaucoup, mais moi je trouvais justement que c'était peut-être le moment où c'était un peu le plus chiant, en fait, voilà, personnellement, mais autrement c'était marrant, mais c'était vraiment, on voyait que la fin arrivait, quoi. Et je pense que si ça avait été un peu plus long, ça aurait été, je pense que ça aurait été plus courte. Donc voilà, donc il y a une apparition d'un autre personnage, un personnage figurant, qui ne sert pas à grand chose pour moi, mais bon, autrement, si peut-être à donner un peu le. un peu de vie à l'histoire, aux blagues, et aussi introduire la blague du placard, parce que bien sûr, la blague du placard ne se fait pas tout de suite.
Ça, j'ai hâte de voilà.
Justement, pour contrer ce fusil de Tchekhov, est-ce que ça aurait pas été marrant de foutre un placard, de rien en faire?
Alors, oui, ça s'appelle un hareng rouge, ça.
Alors,
un hareng rouge.
Alors, ouais. C'est ce qu'ils ont fait avec une armoire qu'ils n'ont pas utilisée.
Ah d'accord, bon,
voilà.
Bah,
il y avait enfin une armoire, enfin non, un
ouais,
étagère.
Mais ça, ça reste, ouais.
C'est une décor. Pièce de théâtre ou c'est un voyage chez Ikea là, parce que...
C'était la Club Buc.
C'est presque ça, mais en tout cas c'est assez rigolo. Bon, faut regarder avec beaucoup de recul, faut pas se dire ça va être une pièce géniale, voilà, mais c'est vraiment le style l'amant dans le placard, enfin, voilà quoi.
Ciel, mon mari.
Ah, c'est presque ça, mais voilà, et je trouve que Benabar a une bonne patte et c'est bien de le voir faire autre chose que
de
la chanson aussi. Voilà.
Oui, ce serait bien de le voir faire autre chose que la chanson, parce que dernièrement, c'est pas forcément exceptionnel.
Voilà. Oui, c'est vrai que son dernier album n'était pas top.
Ouais, si
alors,
vous voulez,
Béranger pouvez... nous fait des gestes à la Marine Le Pen.
Mais par contre, j'ai bien aimé.
Ils sont là. Ils sont partout.
Par contre, j'ai bien aimé l'avant-dernier, quand même.
Ah.
Il était pas dégueu.
On en débattra une autre fois. Ouais,
c'est ça. Ouais. Oui, parce que je vous laisse tous les deux, vous faites une émission sur Benabar.
Sur l'agneau.
Merci, Thomas. Et bah, écoute, on va passer à la suite. Ça va être Jason.
Absolument.
On va faire une petite série, pas piquer des hannetons, hein, c'est parti.
Did you know the human eye can see more shades of green than any other color? When you figure out the answer to my question, then you'll have the answer to yours.
Alors, Jason, mon Jason.
Oui, bah écoutez, je vais vous parler d'une série qui est sortie assez récemment sur Netflix. Ça s'appelle 13 Reasons Why. Et donc, c'est une série de Brian Yorkey.
Comment ?
Brian Yorkey.
Yorkey ?
Brian Yorkey.
Ramène tes clés en français.
Brian Yorkey. Yorkey qui est donc, c'est une série sortie le 31 mars sur Netflix. Qui est adaptée du roman éponyme de Jay Asher. Jay Asher. Et donc, dès le début de la série, ça attaque, on nous apprend que Anna Baker, une jeune lycéenne, s'est suicidée et qu'elle va laisser derrière elle 7 cassettes dans lesquelles elle va énumérer les 13 raisons. Parce que oui, une cassette, c'est...
Ah, je crois qu'il y avait 13 cassettes, moi.
Non, parce qu'il y a deux faces. Une
cassette. Ah d'accord,
oui. Donc, elle va énumérer...
Alors, il y a une face qui n'est pas utilisée.
Elle
est dans le placard.
C'est pour introduire la saison 2.
Et donc voilà, elle va donc à travers ces 7 cassettes, elle va énumérer les 13 raisons qui l'ont poussée au suicide. Et derrière ces enregistrements, bien sûr, vont se cacher des lycéens. Donc en fait, chaque cassette correspond, chaque face correspond à un lycéen qui l'a poussé à commettre cet acte. Alors tout au long de la série, on va suivre Clay Jensen, un lycéen assez discret qui a l'air tout gentil et qui fait pas d'histoire. Et lui aussi, il va recevoir une cassette. Et on va découvrir à travers ses écoutes et la voix off de Anna qui va nous suivre tout au long de la série. Donc on va voir sa voix off qui va nous suivre. On va découvrir les raisons qui l'ont poussé à se suicider. Chaque épisode donc étant dédié à un bully différent. Mais alors pourquoi Clay, ce jeune garçon aussi gentil, a-t-il reçu aussi une cassette? Pourquoi est-ce qu'au final c'est une raison de la mort de Anna? C'est ça au final qui va nous faire suivre cette série, ça qui va nous intéresser, on veut savoir pourquoi.
Ah ouais, je veux savoir pourquoi.
Et oui, parce qu'en fait, la série est très prenante, en fait. Il y a plein de mystères. Et donc, comme dans toute série américaine qui se passe dans un lycée, on va retrouver une flopée de clichés, hein, entre le groupe de sportifs populaires qui arborent leurs vestes aux couleurs de leur école.
On part dans Riverdale.
Donc, dont tous les filles raffolent, bien sûr.
Les jocks.
Les jocks, c'est ça. En passant par le latino qui joue des points. La série, en plus de son but principal qui est bien sûr de divertir, a clairement un message éducatif et préventif en fait, notamment envers les adolescents. Parce qu'il y a tout un discours sur le suicide qu'on va retrouver au long de cette série, voilà c'est ça. Alors moi perso, j'ai beaucoup aimé cette série. Je la trouve très bien rythmée dans le sens où c'est une série américaine, hein, c'est très bien foutu. Disons que si on avait une série française sur le suicide, je pense clairement pas si ça... Production France 2, admettons que ça m'aurait intéressé de cette façon-là. Et donc le message qui voulait faire
passer...
C'est
un peu mesquin envers les productions françaises quand même. Hein.
Ouais,
un petit peu.
C'est
hein,
mon avis.
Ouais.
Voilà. Donc sur la première moitié de la série, c'est très bien. C'est assez soft jusque-là. On nous parle du suicide assez gentiment. Mais la deuxième moitié, psychologiquement parlant, c'est très éprouvant. Parce que les personnages, au fil des écoutes de leur cassette, prennent conscience des actes qu'ils ont faits. Et c'est lourd en fait.
Et ils vont se suicider aussi.
Voilà, il y aura un gros suicide collectif.
Putain, super, je le savais.
Merci.
Non, mais voilà, sur cette deuxième partie de la série, Voilà, il y a Clay, donc ce personnage principal qui va chercher à faire éclater la vérité au grand jour, pendant que tous les jocks qui aussi ont causé sa mort veulent le faire taire en fait. Et donc Clay va lentement sombrer dans une dépression. Et c'est très bien niveau le pathos, c'est vraiment très bien foutu en fait, parce que j'avais vraiment une empathie pour Clay. Je me disais putain, mais à sa place, je serais vraiment pas bien. Et il y a des scènes en fait que je trouvais en fait, c'est peut-être un petit peu mon bémol en fait, parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment très très crues en fait. Ouais. C'est, je trouve que c'est adressé principalement à des adolescents, mais on a des scènes de viol qui sont assez crues, et on a la scène du suicide carrément. Donc on a un plan fixe sur Anna qui rentre dans une baignoire et qui s'ouvre les veines en fait devant nous comme ça, et c'est très réaliste en fait. Et j'avoue que moi j'en ai vu des trucs. Et j'avoue que la violence, ça me dérange.
Ça t'a fait grimacer, quoi.
Ça me dérange pas forcément, mais là, c'était peut-être un peu trop, en fait.
Parce que trop réaliste, peut-être.
C'était très. C'est voulu, hein, je pense, de montrer que le suicide, c'est pas.
C'est pas bien.
C'est le décalage. Hein,
il faut pas.
Non, mais ouais, c'est le décalage, hein, tout simplement.
Oui, voilà, c'est ça. Et
puis voilà, ouais. Je pense que c'était voulu pour pas. Comment...
Par contre, une scène de viol, ça m'intéresse. Hein, c'est un peu plus bizarre. Ouais. En tout cas, surtout pour une série américaine.
C'est toujours compliqué.
La scène de viol, disons qu'il y avait un montage qui était fait de façon à ce que ça. Bon, ça reste un peu.
Oui, c'est pas montré vraiment comme.
Mais la scène de suicide était quand même très violente, quoi. Ensuite, ça enchaîne avec les parents qui la découvrent dans la baignoire. Je peux vous dire que c'est. Après ça, t'as envie de mettre sur pause, de prendre un petit thé et te rouler dans un plaid, quoi. Mais vraiment, c'est.
Ah, alors il y a Point qui demande si cette série ne ferait pas l'éloge du suicide.
Alors justement, en fait. Je crois que c'est Monsieur le Prof qu'on parlait sur Facebook, qui disait que lui, de son point de vue de professeur, en fait. Il trouvait que ça faisait un peu. Admettons que c'est quelqu'un qui se fait bully à l'école. C'est vrai que ça peut faire un peu l'éloge du suicide en fait. C'est vrai que Anna en fait à travers ses cassettes prend sa revanche en fait. C'est une vengeance un peu quelque part. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect-là qui est peut-être aussi un peu dérangeant où, au final tu mets le suicide un petit peu en avant. Mais en tout cas moi de mon point de vue de quelqu'un qui est pas dépressif du tout ou qui a pas de soucis. Enfin je suis plus lycéen mais enfin.
Bon.
C'est vrai que moi, ça a plutôt l'effet inverse quand même. Hein. Après cette série-là, j'avais envie de faire des câlins à tout le monde et c'est vrai que.
Après, surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'au bout d'un moment, la question de savoir si ça fait l'apologie du suicide, c'est toujours une question compliquée parce que ça dépend des personnes. Mais au bout d'un moment, il faut aussi dire que si quelqu'un finit par se suicider, ce sera probablement pas à cause d'une série.
Non, ouais. Non, voilà. Non,
clairement.
Voilà, je veux pas être cruel ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, il faut aussi faire. Je comprends qu'il y a besoin de pédagogie autour de ça et le fait est que ce soit sur Netflix, ça limite peut-être les spectateurs de cette série, mais je pense que il faut faire. Au bout d'un moment,
c'est plus là pour choquer.
Voilà,
plus.
Il faut faire confiance aux gens.
Voilà,
tout simplement.
C'est ça.
Mais on parlait de choquer justement, et la série elle a beaucoup d'écho déjà chez les lycéens, les jeunes, et aussi par exemple, je sais que là j'ai l'article sous les yeux parce que je l'avais lu juste hier justement, au Canada, et je crois qu'en France ça commence aussi, où les proviseurs des lycées au Canada envoient des mails aux parents pour les avertir que cette série commence à prendre beaucoup d'ampleur sur les questions de. Et qu'il faut commencer à aussi en parler à leurs enfants.
En tout cas, il y a quand même des thématiques très intéressantes, hein, quand même. Je trouve que c'est une super série, moi, en tout cas.
J'aurais juste une question.
Ouais.
Hein,
on terminera là-dessus.
Est-ce qu'il y a un propos, tout simplement ? Est-ce que la série dit quelque chose ou est-ce qu'on tente de raconter une histoire ?
Non, il y a un vrai propos. Il y a un vrai propos.
Dans ces cas-là, bon, je comprends que ce soit contesté.
Non, c'est pas juste une histoire sur un suicide.
Est-ce que c'est basé ? Non, c'est basé sur un roman, mais est-ce que je sais pas si tu sais.
C'est pas une histoire vraie.
Sur une histoire vraie, non, pas du tout.
Non, c'est juste un roman. Ouais.
Ça ferait encore plus badé, ça.
Non, c'est pas une histoire vraie du tout.
Très
oh
bien.
Mon Dieu, une cassette dans le placard.
On va passer à la suite. Ce sera tout.
Comme dans Seven.
Ce
sera
tout. On va passer à Nemo, c'est ça. Je sais que tu as encore un.
Ah oui, alors attendez. Oui. Quelqu'un nous demande s'il y aura une saison 2. Donc oui, il y aura une saison 2.
Il y a des indices, ouais.
Qui va apparemment. Enfin là, c'est. Bon, je sais pas si je vais spoiler, mais ouais. Non, je préfère pas trop en dire.
Et monsieur quelqu'un, tu t'appelles Point sur le chat, mais change ton pseudo, on veut savoir qui tu es. Voilà. Nemo, ça va être à toi.
Oui.
Je mets le petit son.
Vas-y, petit
Kobayashi-san. C'est parti.
Tu peux couper, ouais. Parce
j'adore.
Que mettre en fond. Alors, on va parler de Miss Kobayashi Mad Dragon, une série qui est disponible sur Crunchyroll, comme ça je fais la pub directement, qui est disponible en japonais sous-titré en français. Donc, alors, il faut pas paniquer. Je vais vous raconter l'histoire, mais je demande aux gens de ne pas paniquer. Tout va bien.
C'est japonais.
C'est japonais.
Bon, on est habitué alors.
Bah, oh, oh mon dieu, tu parles sushi toi aussi. Ouais. Big up à Nagui.
Ah d'accord. Oui,
ah Nagui France 2, les petites trucs racistes comme ça. Voilà. Donc, bah, je vais vous lire le synopsis tel qu'il est bien résumé par Wikipédia, comme ça je mens pas. Donc, une nuit, une salariée du nom de Kobayashi, une salariée japonaise de 25 ans, du nom de Kobayashi, rencontre un dragon du nom de Toru qui vient d'un autre monde. Et pourquoi elle se rend pas compte que la situation est pas vraiment normale? C'est parce qu'elle est complètement bourrée. C'est-à-dire, c'est un soir de beuverie où elle en a marre de son taf et tout. Elle est finie complètement bourrée et elle finit par dialoguer avec un dragon qui est blessé, qui s'est retrouvé dans notre monde, qui a le pouvoir de voyager entre les dimensions et qui se retrouve dans notre monde. Et au final, ben, elles vont finir par boire un coup ensemble. Et le lendemain, transformée en jeune fille, ce dragon se présente chez elle pour devenir sa domestique. Oh. Alors on est vraiment dans une série japonaise pour le coup, surtout que finalement on va s'apercevoir qu'il n'y a pas que Toru qui est venu, enfin Thor qui est venu sur Terre, il y a d'autres dragons qui sont là et qui vont interagir avec la petite vie de Kobayashi. C'est une série qui est réalisée par mon studio d'animation japonais préféré, qui s'appelle Kyoto Animation, qui avait déjà produit La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, Keon, Yuka ou ce genre de choses. Et qui sont vraiment très très bons en termes techniques et la série ne ment pas d'ailleurs à Stéphane, est dans la veine de ce truc-là puisqu'il y a des moments donnés où l'animation est complètement ouf alors qu'il se passe pas forcément grand-chose. Ce sont vraiment le petit moment plaisir à des moments donnés des animateurs ou en tout cas des réalisateurs. Mais cette série est une comédie, bien sûr, c'est très drôle, vraiment. Mais elle n'est pas que ça, et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Alors, le propos au début est un petit peu ridicule. On se dit des dragons qui se transforment en êtres humains, enfin en jeunes filles, etc. Et puis, elles ont toutes des gros boobs et tout. Il y a quelques gars qui sont.
Ah, c'est bien ça.
Elles ont, non, parce qu'il y a quand même une gamine dans le tas. Ah, bah,
c'est bien aussi. Pardon, je te casse.
Il y a aussi un mec. Fais gaffe.
Non, mais personne n'a entendu.
Et donc, en fait, au début, il y a quand même pas mal de gags à la base sur les boobs, etc. Des gags un peu vulgaires, mais très vite. La série en fait multiplie les gags un peu mignons sur le décalage. Il y a un gag, je vais juste en dire un parce que moi je suis un de ceux qui m'a fait plus rire, où donc on vit que Kobayashi vit avec Thor et également vit avec Kana qui est un jeune dragon, c'est une gamine de on va dire 7-8 ans, et donc toutes les deux partent au travail pendant que Thor reste à la maison pour faire les tâches ménagères. C'est une domestique quoi, et à un moment donné elle dit bon voilà, bonne journée et surtout faites gaffe aux voitures, elles sont tellement fragiles, parce qu'évidemment comme c'est des dragons ils ont une force surhumaine, elles ne comprennent pas le monde des êtres humains, enfin elles comprennent pas grand chose en fait ce qui va, donc elles découvrent la société japonaise et des fois bon bah c'est
quelques petites blagues là-dessus,
ouais, que voilà c'est le principal des blagues, c'est le décalage entre qu'est-ce que c'est qu'un dragon transformé en être humain et qu'est-ce que c'est vraiment qu'un être humain. Les attitudes sont un petit peu différentes, par exemple les voitures pour eux c'est de la magie mais il faut un sort particulier qui s'appelle le permis.
Ah oui, d'accord.
Mais ça coûte cher en assurance,
c'est bien,
parce
c'est
que
bien trouvé.
Mais Kobayashi, on sonne à la porte, voilà, dans le placard. Mais Kobayashi peut pas parce qu'il y a des histoires d'assurance et donc elles comprennent que oui, même dans ce monde-là, la magie a un coût, etc. Mais voilà, c'est vraiment une série qui est extrêmement drôle. Alors les romances sont un peu forcées, mais la série n'est pas que drôle, elle a un vrai propos et à des moments donnés, il y a une espèce...
Donc c'est contestable.
C'est contestable et en soi. Mais il y a un vrai propos sur la différence, tout simplement. L'acceptation de la différence. Elle a un propos un peu aussi sur la famille, mais il y a aussi des moments donnés un peu plus calme, un peu plus... voire un peu triste, un peu avec pas mal de compassion. Donc voilà, c'est une série, il faut lui donner sa chance malgré son scénario complètement fou au premier abord. C'est très joliment fait, c'est très joliment réalisé. L'écriture des épisodes est au top et on est très très malheureux quand on doit quitter tout ce petit monde. Mais voilà, c'est 13 épisodes, c'est vraiment très bon et je vous le conseille. C'est disponible sur Crunchyroll, ça s'appelle Miss Kobayashi Mad Dragon. Et comme ça commence à dater, je crois que c'est même dispo gratuitement
en SD.
C'est cool.
Et de toute façon, en abonnement, Crunchyroll c'est 5€ par mois, donc ça va. Ouais. Voilà, écoute, c'était mon conseil.
Eh ben écoute, il nous reste 5-6 minutes. On va terminer par les petits trucs en plus. J'espère que vous en avez un. Je vais commencer si personne en a un.
There is one more thing. One more thing. There's one more thing. 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 But there is one more thing. But we've got one more thing.
C'est une référence à Fargo, non?
Je suis très content de mes petits jingles, moi je les aime bien. Je vais commencer, si ça vous dérange pas, ça va aller très vite. C'est juste que j'ai commencé à écouter le dernier Gorillaz, qui est sorti, je ne sais plus quand d'ailleurs, le 28 avril il me semble. J'ai écouté Gorillaz, vous connaissez tous un petit peu, ouais.
Oui.
Et ben j'étais un peu déçu en fait. J'ai pas tout écouté encore et je sais pas, je trouve ça. Alors déjà, c'est le premier album qui est sorti depuis 2010. C'est l'album. Alors l'album s'appelle Humans. Il y a une tripotée de collaborations et tout. Il y a une vingtaine de morceaux. Et globalement, bah j'étais franchement un peu déçu quoi. Je trouve qu'ils ont pas été, ils sont plus aussi incisifs. Je sais pas, il manque quelque chose. L'univers, ça se voulait un petit peu contre Trump, contre les idéologies et tout, et ça tombe un peu à plat, j'ai l'impression. Donc Gorillaz, faites-vous votre avis, mais j'étais un petit peu déçu, voilà. Quelqu'un, un petit Thomas? Ouais, Nemo?
Moi, je voulais juste saluer la mort d'un site internet qui nous a quitté cette semaine. Ah. C'est NiaTorrent. Je continue à faire mon otaku jusqu'au bout, mais NiaTorrent, c'est un recueil, c'est une indexation de torrent qui concernait l'animation japonaise et aussi le manga et tout. Enfin bref, tout ce qui fait plaisir aux otaku. Et le site, eh ben, a été tout simplement fermé parce que l'administrateur a pris peur suite à. Alors, c'est pas officiel, mais grosso modo, la plupart des gens disent que ça a fermé suite à une décision de la Cour de justice européenne qui interdisait les sites de trackers, qui condamnait très fortement les sites de trackers. Et donc, le monsieur a préféré fermer.
Depuis quelques mois, ça y va. Tout
voilà, il préférait fermer ce site. Les trackers sont toujours en place. Alors, il existe des solutions qui se mettent. Otaku ont beaucoup trop de temps. Donc, de toute façon, il y aura des solutions qui seront mises en place pour récupérer les torrents, etc.
Tu télécharges toute la base de données. Et puis,
grosso modo, c'est l'idée.
Grosso
modo, c'est ça. Alors, évidemment, c'est illégal, hein, bien sûr. On va pas le dire autrement, et surtout qu'aujourd'hui il y a des sites, j'ai cité Crunchyroll, il y a aussi Wakanim et tant d'autres qui permettent légalement de voir les choses, mais c'était aussi bon, c'est un peu hypocrite de dire oui c'était une archive etc, mais ça permettait quand même
de retrouver des
trucs même s'il manquait beaucoup de choses. Donc voilà, c'est NiaTorrent, ça a été quand même un petit pilier. Je vais pas lui rendre hommage parce que bon bah voilà, c'est le jeu, même pour Blue 7, hein, ouais. Quand on est illégal, ça peut fermer à tout moment. RIP Mega Upload quoi. Et voilà, c'était un petit coucou pour tous ceux qui ont connu NiaTorrent. Ben voilà, c'est dommage, mais c'est un peu une fin d'histoire.
Vous qui êtes là-haut, on vous embrasse.
Et on remercie bien sûr tous ceux qui avaient tenu le site quoi.
Thomas, allez un petit truc rapidement.
Moi je t'avoue que j'avais pas prévu.
C'est pas grave.
Écoutez, je vais vous parler de la fête de l'UMA. je suis à la fête de l'UMA avec mon papa et son cousin. Et voilà.
Tu vas voir Renaud.
Oui, je vais voir Renaud pour la deuxième fois. Et franchement, n'y allez pas à contre-cœur parce que bon, voilà, il a voulu voter Macron.
Fillon,
c'est une autre histoire. Parce qu'il avait dit que c'était Fillon-Le Pen avant les casseroles. Voilà. Bref. Et il avait dit, ouais, je vais voter Macron puisque c'est comme ça. Ben voilà. Et bon, il y en a plein qui ont gueulé. Voilà. Mais n'y allez pas à contre-cœur. Voilà. C'est bon.
Ça reste un artiste.
Ça reste un artiste. Très engagé. Voilà. Et puis voilà.
Ouais, Jason.
Alors moi, j'ai pas grand-chose. J'ai juste un site internet qui est marrant. Ça s'appelle Quick Draw. Donc, rapidement, dessine. Et c'est marrant, en fait, t'as une voix off qui te fait dessine un camion. Là, tu dessines ce qui ressemble à un camion.
Ça fait, c'est
une épingle. Tu vois,
excellent.
Et jusqu'au moment où tu trouves, et puis c'est marrant, tu peux voir ce que les autres internautes ont dessiné. Et voilà, c'est juste marrant. Allez-y sur le chat, hein. Alors, c'est quick, draw.
Comme Noé nous a rejoint, je l'autorise à faire une petite.
Moi, je veux juste revenir sur le dernier Gorillaz. Bon, ils ont essayé de se mettre un petit peu à jour, mais en fait.
C'est
super, super mainstream au final.
Ouais, c'est un peu décevant.
Mais peut-être que dans 10 ans, on dira putain, en fait, c'était pas si mal que ça.
Ils sont peut-être juste avant-gardistes en fait.
Ça vaut pas Benabar.
Bon, merci de nous avoir suivis en live, hein. Nemo. Merci d'être venu. De toute façon, je pense que tu vas rester dans le coin ce soir. Jason, merci d'être venu aussi. De toute façon, on te retrouvera après juste après pour
Club Foot. J'aimerais peut-être parler d'un petit truc.
Vas-y, 10 secondes.
Je serai au théâtre à la Maison Bleue le 16 juin.
Voilà.
Oh là là.
Donc, Jason, on te retrouve
après
dans Club Foot. Si je comprends bien, voilà, c'est.
Je serai dans Club Foot, ouais. D'ailleurs, restez, hein,
je suis qu'un connard.
C'est pas parce que c'est du foot que c'est pas bien.
Thomas, okay. Tout à l'heure également, l'émission, vous pouvez la retrouver sur PodCloud, hein, carteblanche.le, podcast.fr, sur Facebook, carteblanche.podcast.
Mais est-ce qu'on vous verra Podren?
Moi je viens à Podren de toute façon.
Ça dépend, c'est quand déjà Podren?
C'est le premier week-end de juin.
Et justement, Nemo, je te laisse quelques secondes pour en parler.
Podren, c'est un événement qui regroupe des podcasteurs, des poditeurs. Ça se passe à Rennes dans une salle où tout sera prévu pour que les gens passent un bon moment. On a des émissions de prévues, on a des grands débats prévus. On aura des invités. Donc on a deux comédiennes de doublage qui viennent nous voir. Donc Adeline Chetaille et j'ai l'autre, je l'ai plus.
Françoise Cadol,
voilà.
Et le délégué numérique de Rennes.
Et délégué numérique de Rennes, Laurent Hamon, qui est un élu.
Super sympa.
Et qui est super sympa d'ailleurs, je le salue.
Très bien.
Et venez, c'est cool, et inscrivez-vous sur le site parce qu'on a besoin de savoir combien vous êtes.
Parce que tout le monde vote Macron.
On se retrouve tout à l'heure pour Club Foot. Merci, je vous remercie d'être venu. Hein, l'après-midi pour nous, elle va continuer. On se dit merci et au revoir à la prochaine.
Merci beaucoup.